écoutez Chronique de la vie parisienne, dirigée par Jean-Paul Chériguez de Olmeta, diffusée en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 10 novembre 2021 de 10h30 à 11h30 et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Amis auditeurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver, comme chaque mois. Évidemment, je me répète, mais c'est vrai que je suis toujours très heureux de vous retrouver. Avant d'aller plus loin, je vais vous dire tout de suite le sujet de l'émission, ce qui vous permettra d'envoyer un maximum de questions, si justement vous êtes intéressé par le sujet, et je pense que vous le serez. J'ai invité un monsieur, un personnage qui s'occupe fort bien du viager. Et alors, moi, je savais ce que c'était que le viager, mais j'en savais pas plus. Et je souhaite vous faire découvrir un peu comment ça fonctionne. Alors, ça peut intéresser les personnes de ma génération, et puis même un peu les plus jeunes qui pensent à un avenir un peu lointain. Donc, dès maintenant, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas sur le viager, comment ça fonctionne, etc. Bon, envoyez-les tout de suite. Là, je vais faire une petite chronique, et après, je me consacre à mon invité. Alors, je reprends des messages que j'ai reçus la dernière fois. Il y a une dame très gentille qui ne demande pas l'anonymat, mais je vais dire simplement son prénom, qui s'appelle Laurie. Eh bien, écoutez, chère auditrice, je n'ai aucune explication. Vous me faites remarquer que dans mon livre « Théâtre, mes amours », il n'y a pas le théâtre des jazzets. Eh bien, j'ai pas d'explication, je l'ai oublié. Et là, je me roule par terre parce que c'est un théâtre connu qui porte le nom d'une célèbre actrice. C'est un théâtre où j'ai connu des émotions, où j'ai œuvré pour la Société des auteurs. Et dans la grande liste des théâtres de Paris, eh bien, je l'ai oublié. Donc, je demande infiniment pardon au directeur du Déjazet et je m'excuse auprès des lecteurs. C'est simplement un oubli, j'ai pas d'explication. Alors, j'en profite pour vous donner un conseil. Achetez mon livre au maximum, comme ça, il y aura une réédition et je pourrai rajouter le théâtre de Jazet. Je voudrais maintenant répondre à un auditeur qui me demande quand est-ce que je ferai une émission sur le peintre Mathieu. Ben, c'est toujours à l'ordre du jour, mais à chaque fois que je commence à organiser ça, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Mais je finirai par y arriver. Maintenant, deux petits mots comme ça, avant de passer au sujet principal. Si c'est quand même très important, je vous signale que mon ami et notre ami Jean Haute-Pierre procédera à la lecture de ses poèmes « Testament de la licorne » le 20 novembre à 20h30 dans un théâtre que nous aimons tous beaucoup, qui est le théâtre du Nord-Ouest, 13 rue du Faubourg Montmartre. Puis je voulais balancer une petite pique comme ça au passage aux donneurs de leçons des radios et des télévisions. Au début de la pandémie, l'Académie française a expliqué, avec une démonstration à l'appui, qu'il fallait dire « la Covid » et non pas « le Covid ». Et comme maintenant on ne sait plus s'il faut dire la ministre, le ministre, en fait tout ça est mélangé, ben c'est parti pour la même chose. Et je suis étonné qu'on ne suive pas les prescriptions de l'Académie française, que si elle ne sert plus à rien, il faut nous le dire. Et je voudrais rappeler que notre monarque qui a parlé hier soir est de droit régalien le protecteur de l'Académie française. Alors il ferait peut-être bien de s'en mêler un tout petit peu. Et puis dernière chose, comme ça m'a traversé l'esprit, des souvenirs de voyage quand j'étais beaucoup plus jeune dans les pays du Maghreb. Eh bien, les femmes portaient le pantalon parce que c'était impensable qu'elles portent une jupe. C'était pas bien. Et là, on est toujours en train de polémiquer sur le voile. Moi, je suis tout à fait d'accord pour la polémique sur le sujet. Mais dans le fond, toutes les femmes portent des pantalons bien avant que l'islam nous ait un peu moralement envahi. Il faudrait peut-être y réfléchir un petit peu. Voilà. Bien. Et maintenant, on va revenir aux choses plus sérieuses. Le viager. Alors, ça, comme je vous le disais il y a un instant, ça peut concerner des gens de mon âge et plus âgés, puis des gens un peu plus jeunes qui pensent à l'avenir. Alors, voilà, bon, tout le monde sait à peu près ce que c'est le viager, mais après, on ne sait plus comment ça marche. Alors, je pose la première question à mon invité, M. Reza Nakai. Cher ami, je décide de me faire prendre en viager, comme on dit. Comment je m'y prends? Où vais-je? À qui m'adresse-je?
Bah, bonjour à tous. Justement, c'est vrai que pour c'est quand même le viager, c'est assez particulier. C'est vraiment un marché entre guillemets qui représente au niveau transaction beaucoup moins que les ventes classiques dans l'immobilier.
Dans l'immobilier, oui.
Exactement. Et à ce sujet, donc, alors après. Une des possibilités, c'est aller se renseigner auprès de son notaire, qui peut éventuellement.
Déjà trouver un notaire. Non ?
Un notaire. Donc, soit on a un notaire donc, qui peut vous guider à des agences spécialisées, ou alors carrément. Donc,
par relation.
Par relation, voilà, exactement, recommandation.
Mais il n'y a pas le truc comme tiens, je vais acheter une bagnole, je vais pousser la porte et puis je veux une voiture. Il n'y a pas de boutique.
Il y en a quand même, il y a des agences spécialisées.
Oui, mais enfin, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Quoi.
Non, voilà, absolument. C'est pas mal développé ces dernières années, mais...
Si on a un notaire, on peut lui poser la question. Sinon, si on a des amis
voilà.
qui ont fait un viager, on peut
exactement,
leur demander.
Exactement, recommandation.
C'est comme ça que ça marche le mieux. D'accord.
Exactement.
Bon. Alors, qui peut faire un viager? Tout le monde?
Oui, tout le monde de nos jours. Alors après, c'est vrai que même si... avec la conjoncture, les gens essayent de... On a des gens qui ont recours de plus en plus jeunes. Mais nous, quand même, avant 65 ans, c'est quand même un petit peu difficile.
Voilà. Oui, ben justement, est-ce qu'il y a une législation? Est-ce qu'on peut interdire à quelqu'un de 30 ans de se faire prendre en viager? Ce qui serait idiot, mais rien ne l'empêche.
Non, rien ne l'empêche. Alors,
ni pour l'un, ni pour l'autre.
Ni pour l'autre. Après, je ne suis pas sûr qu'on en trouve beaucoup
non, si on tombe sur le bon sens, d'accord.
Exactement.
Mais il n'y a pas de législation sur le sujet?
Non, à ma connaissance, non.
Non, il n'y a pas de barrière.
Je ne pense pas.
Non, c'est évident qu'on ne va pas... On ne va pas le faire, mais c'était la question. Parce que, en définitive, c'est peut-être pas tellement réglementé, le viager.
Sur certaines choses, si, quand même. Il faut savoir que, à partir du moment où il faut savoir que c'est quand même un acte qui se fait au même titre que les ventes classiques chez le notaire. Donc, il y a quand même des points et des clauses
à respecter, oui.
Absolument. Donc, que ce soit les indexations, les clauses sur les répartitions déjà, enfin, tout, ou même l'hypothèque du premier rang pour justement protéger le vendeur, le crédit rentier.
Voilà. Alors, celui qui... ça s'appelle un crédit rentier. C'est
exactement.
Ça. Bon. Crédit rentier qui a décidé... il n'a pas d'enfant, il n'a rien fait. Il a toutes les motivations possibles, imaginables. Mm-hmm. Puis c'est sa décision à lui. Bon. Mais alors, après, il est absolument obligé de passer par un professionnel comme vous et d'aller chez un notaire parce qu'il y a quand même des arcanes un peu compliquées. Donc,
absolument. Autant, une vente classique, ça
c'est
peut se faire
plus,
entre particuliers.
C'est peut-être plus simple qu'un viager.
Mais un viager, quand c'est vraiment... D'avoir vraiment en soi...
Ah oui, il faut les garanties pour les deux.
Exactement, un expert ou un conseiller spécialisé, ouais, aussi donc son notaire, parce que c'est vrai que...
D'accord. Et, alors, question que je me pose, est-ce que l'acheteur éventuel a un droit de regard sur la santé du vendeur?
Non, alors vraiment absolument pas, et ça, déontologiquement parlant, nous,
on
ne rentre pas là-dedans, dans ce sujet-là, et c'est vrai que, comme en plus, il y a l'aléa, donc il vaut mieux quand même de ne pas rentrer dans ce genre
oui,
de...
Oui, bien sûr, oui.
Exactement.
Je me posais la question, parce que bon, alors effectivement, après, si un médecin prend quelqu'un... Est-ce qu'un médecin a le droit de prendre un patient en viager?
A priori, non. D'ailleurs, les médecins, je pense, si vraiment il s'avère qu'il y a un médecin qui a acheté un bien et qu'au bout de 21 jours après la signature de l'acte authentique, il y a un décès ou quelque chose, donc la vente est caduque et donc c'est annulé. Voilà. Donc, ça, c'est...
D'accord, parce que c'est une question un peu vicieuse, mais pourquoi pas? Parce que le médecin est mieux placé pour savoir quand même.
Absolument, oui.
Et donc, c'est pas interdit. Un médecin peut prendre.
Peut acheter, on a eu des cas.
Bon,
voilà.
Après, il y a quand même, s'il y a une mort rapide, on se pose des questions.
Oui, voilà. À ma connaissance, moi, je n'ai pas eu ce cas de cette expérience-là, mais oui. Ça...
Ah, d'accord. Alors, on fait un break. Enfin, comme on ne dit pas d'ailleurs ici, on ne parle pas anglais. On fait une petite pause et je découvre avec vous un message Alors, bonjour, monsieur le marquis. Personnellement, je préfère dire... Personnellement, je préfère dire le Covid, qu'on nous laisse la liberté, comme pour après-midi, qui peut être masculin ou féminin. D'ailleurs, si on suivait les avis de l'Académie, on devrait dire un automobile, genre qui a prévalu jusqu'en 1920 dans... Très bien. Merci pour vos émissions intéressantes. Ben, monsieur, c'est très bien. Oui, c'est une précision. Je peux vous suivre. Mais je pensais que j'allais avoir une question sur le viager. Bon, mais voilà. Je vais chez le notaire et après, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je monte mon acte de propriété, que je prouve que je suis propriétaire de mon appartement, bien
Absolument.
Entendu.
Absolument. Voilà, il faut être propriétaire. Et à partir de là, c'est possible parce que justement, dans le viager, il y a donc le droit d'usage, l'usufruit.
Oui, bien sûr, d'accord. Donc, il faut que je sois propriétaire.
Sur la personne, et alors, propriétaire.
Donc, je disais à l'instant, il n'y a pas d'affaire médicale dans tout ça. Mais est-ce que dans ma famille, mettons, des enfants peuvent dire « oui, bon, il est un peu fada et c'est pour ça qu'il est prêt en viager ». Est-ce que ça peut poser problème ou pas?
Dans la famille, ça, justement, c'est intéressant ce que vous évoquez parce que ça a bien changé depuis ces dernières années.
Aussi, oui, parce que dit papy perd la boule, il s'est fait avoir, il a signé pour un viager. Ça...
Oui, alors justement, alors donc c'est vrai que de plus en plus de notaires, d'ailleurs, ils demandent donc que les vendeurs aient une capacité donc au niveau
intellectuel,
exactement, et que de temps en temps donc certificat médical à l'appui. Mais alors pour dire que donc n'importe qui vend, notamment avec des héritiers directs, des enfants ou pas,
qui ne peuvent s'y opposer.
Ils s'y opposent, exactement. C'est au même titre que vous, voilà, donc vous vendez votre voiture, vous pouvez vendre votre bien. Et d'ailleurs, comme moi-même, j'ai constaté autant il y a une quinzaine d'années quand je commençais dans le métier, au tout début, c'est vrai que c'était tabou. Les peu de gens qui, avec des enfants, des héritiers directs, souhaitaient vendre, c'était pour les déshériter parce qu'ils disaient concrètement, monsieur, vous savez...
Oui, c'est ça. Moi, je me souviens que le viager avait quand même un peu mauvaise réputation.
Exactement.
Il y avait un côté, oui, il veut les spolier.
Exactement. Il ne veut pas donner... Enfin, voilà, donc il n'y a pas d'héritage.
Cela dit, je ne suis pas certain. Bon, ce n'est pas encore fait, j'y réfléchis. Mais que si demain, je souhaite être pris en viager... et que je l'annonce comme ça pendant un dîner de famille, je pense que mes neveux feront la gueule.
Ah.
Ils diront rien. Mais
vous savez, après, tout dépend. Nous, on a des cas, d'ailleurs, justement, c'est là, dernièrement, j'ai un cas d'une dame qui veut justement vendre en viager pour aider ses neveux et nièces.
Bon, ah bah oui, voilà. Bon, là, c'est...
Parce qu'il faut savoir que la fiscalité est très importante quand ce n'est pas des héritiers directs. Donc, ça veut dire, vous vendez un bien, c'est à hauteur de 60, voire peut-être un peu plus. Donc, les neveux et nièces doivent payer pour récupérer le bien. Donc, souvent, c'est même... les neveux nièces qui encouragent donc
ça c'est important.
Exactement.
Oui, ça, en préparant l'émission, j'y avais pas pensé à ça.
Exactement.
Mais oui, la fiscalité de l'héritage,
c'est très important. Donc et les gens, en plus les vendeurs, moi je le remarque, ils préfèrent de leur vivant aider les gens qu'ils aiment ou qu'ils apprécient, neveux nièces ou autres. Et en plus, ils ont réglé certaines choses de leur vivant. Ils disent le jour où on va partir, c'est pas à eux de gérer des choses, des successions être quand même déjà dans la famille, ça peut être compliqué. Donc quand c'est pas vraiment la famille, ça peut être encore plus. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, donc c'est vrai que ce qui m'a personnellement m'a frappé, c'est que autant il y a une dizaine, quinzaine d'années, les gens avec des enfants ne faisait quasiment pas de vente en viager, ou alors c'était pour déshériter. Aujourd'hui, ça a complètement changé.
Oui, non, ça n'a plus mauvaise presse. Hein.
Non, d'ailleurs justement, souvent, c'est à l'initiative des enfants qui...
Oui, qui devraient, machin.
Voilà, et qui aident. Et en plus, pour les parents, il y a plusieurs points intéressants, parce que les parents, ils disent déjà, avec la conjoncture, la vie qui devient chère, les retraites qui diminuent, donc la rente, on va les garder pour améliorer notre quotidien.
Bien.
Et le bouquet, on va le dispatcher et répartir aux enfants. Et en plus, bon, avec les fiscalités, donc à hauteur de 100 000 qui sont exonérés d'impôts, tout ça.
Je n'ai pas très bien compris. J'ai un ami qui m'a expliqué il y a un moment déjà qu'étant pris en viager, bon, il y avait un bouquet correct. Et puis, ce qui l'intéressait surtout, c'était les mensualités. Et que comme effectivement le bien ne reviendrait pas à ses héritiers, et ben sur le bouquet, on en avait distribué une partie.
Exactement, ben voilà.
Ah oui, ben voilà.
Et ça, si vous voulez, alors il y a plusieurs points intéressants. Déjà, les gens, les parents, ils disent maintenant, ben, on va aider les enfants maintenant et pas dans 10, 15, 20 ans.
Oui, c'est aussi bien d'ailleurs. Oui.
Parce qu'ils ont besoin maintenant, peut-être que dans 10, 20 ans, ça ne sera pas vraiment le cas. Deuxième point important, apparemment, donc ils disent au moins, bah voilà, de notre vivant en règle certaines choses et que bah, après notre décès, il y aura pas, les enfants vont pas se chamailler pour
bah non, ça sera réglé,
voilà, réglé. Et en même temps, bah ils bénéficient d'une qualité de vie.
Oui, donc, ouais, oui, parce que l'argent est immédiat. Là,
exactement. Ouais. Voilà.
Alors, justement, là, c'est vraiment la question du Candide. Comment on calcule le bouquet et la mensualité? Ou est-ce qu'il peut y avoir que un bouquet et pas de mensualité, ou un petit bouquet des grosses mensualités?
Exactement. C'est... Tout est alors vraiment possible. Et si vous voulez, donc en fait, on part de la valeur vénale du bien, donc valeur libre.
Une fois qu'il y a l'estimation qui est faite.
Voilà, il faut donc à partir de la valeur vénale donc, du marché. À partir de là, donc, il y a la valeur économique du droit d'usage ou la valeur occupée fiscale. Ça veut dire que c'est la valeur vénale déduite de l'occupation, de l'abattement d'occupation. Donc, on obtient un montant. Et ce montant-là, tout dépend vraiment des gens. Il y en a qui préfèrent, par exemple, investir, acheter. Ils ont un projet d'acheter quelque chose ou d'aider les proches ou d'autres qui pensent plutôt à leur... Voilà, là, c'est voilà. Dans le cas où ils veulent besoin d'investir ou de répartir, ils optent pour un bouquet important.
Pardon, on y reviendra.
Bien sûr.
J'ouvre une parenthèse parce que... on est pris en viager, on veut un gros bouquet parce qu'on veut acheter une maison à la campagne, on peut.
Voilà, ça, absolument. Bah, moi, j'ai le cas.
Ah, tiens, ça, c'est étonnant. Alors,
exactement. Enfin, là, pareil, encore une fois, j'ai un cas donc, d'un monsieur charmant qui a vendu son
viager,
bien.
Son bien.
Voilà. Alors, là, en plus, c'était une sorte de nue propriété.
Oui.
Et il souhaite acheter un petit pied-à-terre.
D'accord. Mais alors, après, il peut aussi se faire prendre en viager. Par
exactement, possible.
Bah, c'est une chaîne sans.
Exactement, oui, oui. Et moi, ça m'est même arrivé des gens qui viennent, qui disent, écoutez, ils se renseignent, ils disent, on aimerait acheter un bien d'ici quelques temps, et ce bien-là, on souhaiterait le vendre, mettre en viager, qu'est-ce que je peux avoir? Enfin, ils
en définitive, on peut faire plusieurs viagers dans une vie, alors.
Ah oui, bien sûr.
Ah ben ça, je découvre.
Et d'ailleurs, vous savez, on a eu même des clients qui avaient plusieurs biens, parce que vous savez qu'on parle de viager occupé, mais il y a plusieurs différentes sortes de viager. Il y a le viager occupé,
oui, voilà.
Il y a viager libre, ça veut dire donc que vous pouvez aller y habiter, donc je développerai après si vous voulez.
Oui, bien sûr.
Et la nue propriété, qui est une sorte de viager, mais vous gardez plus de possibilités, à savoir en gardant l'usufruit, vous permettez de louer votre bien, de loger qui vous voulez, ou alors de toucher généralement la plupart de temps une somme fixe d'un coup, c'est-à-dire le bouquet, sans rente.
Ouais,
même si c'est possible de aussi d'étaler, faire une sorte de bouquet rente, comme un viager classique. Mais c'est vrai qu'il y a tout. En fait, tout est sur mesure, tout dépend des besoins des vendeurs, des gens qui.
Vous venez de prononcer le mot, moi, j'y avais pas songé. Bon, le viager, en gros, je savais à peu près ce que c'était, mais
bien
en gros.
Sûr, oui.
Mais là, vous venez de prononcer le mot sur mesure, en définitive. Il y a des tas de possibilités.
Exactement. Et pour l'anecdote, juste, je vais vous dire. Alors, moi, j'ai. Donc, c'était il y a quelques années à Lille-Saint-Louis. C'était un appartement magnifique.
Oui,
donc, un couple jeune qui souhaitait vendre. Bon, ils étaient très jeunes. Donc, en fait, leur espérance de vie était très importante. Mais il s'avère que en visitant le bien, j'ai eu donc un couple qui a, on peut dire, adoré l'appartement. Donc, ils ont dit, écoutez, nous, on est preneurs, mais on part sur une vente à terme sur 10 ans. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ils savent exactement qu'au bout de la 10e année, ils peuvent rentrer dans le bien, quel que soit. Enfin, là, c'est plus du tout ni sur, ni sur le décès, ni sur les aléas.
Mais ça, ça s'appelle viager aussi, ça?
Ça s'appelle une vente à terme, mais
c'est une forme de viager.
Voilà, exactement.
Mais dont on fixe le terme, effectivement.
Exactement, ça peut être. Et si finalement, le terme est arrivé à 7 ans, ils se sont mis d'accord sur 7 ans, mais c'est pour vous dire, tout est possible.
Alors, et, au bout de 7 ans, c'est terminé, ça revient à l'acheteur.
Voilà.
Bon, et puis si avant 7 ans, ils ont un accident, un machin, ben voilà, c'est réglé.
Et d'ailleurs, c'est même prévu pour vous dire que, c'est-à-dire, on peut le mettre acté, c'est-à-dire chez le notaire,
oui,
donc sur 7 ans, mais qu'on prévoit que si jamais le bien est libéré un an avant ou deux ans avant, donc il y a une compensation, enfin une somme supplémentaire, et bah, vous récupérez même plus tôt, parce que tout peut arriver, hein. Vous savez, il peut y avoir des...
Non, mais je pense aux accidents de voiture, les machins.
Accidents de voiture, enfin tout.
Oui,
donc,
oui, c'est pas basé uniquement sur la santé.
Exactement. Et du coup, donc là, par exemple, en fonction du nombre d'années qu'il y a, donc c'est comme au même titre qu'un viager. On enlève, si vous voulez, cet abattement
Autrement dit, il y a des multiples possibilités.
Ah oui, oui, tout est possible. Et c'est pour encore revenir à votre question. Donc, c'est vrai que tout dépend des souhaits des vendeurs. C'est-à-dire, il y en a, ils ne veulent pas du tout de bouquet, ils veulent juste un complément de revenu. Mm-hmm. Surtout qu'il ne faut pas oublier, donc, c'est-à-dire c'est que des rentes, pas de bouquet, donc des rentes. Et surtout, ils privilégient ça parce que le jour où ils sont amenés à quitter leur bien, ça veut dire quelle que soit la raison, c'est-à-dire on parle de libération anticipée des lieux, quelle que soit la raison, ça veut dire ils peuvent dire ah bah Paris il fait moche, je veux aller au Portugal ou au Maroc, ou alors malheureusement ils ne peuvent plus s'assumer et qu'ils sont obligés d'aller dans une maison spécialisée ou dans un là-bas. Donc là les rentes sont majorées et donc plus la rente est élevée, plus vous avez l'avantage d'avoir l'augmentation. Donc, qui est environ 30% des rentes, donc avoir la compensation de payer la maison de repos ou train de vie à l'étranger ou ailleurs. Voilà.
Bon. Mm-hmm. Mais là, en définitive, je suis en train de me dire, il faut quand même avoir affaire à des gens qui savent de quoi ils retournent, parce que je ne pense pas qu'on s'improvise comme ça du jour au lendemain.
Peut-être
agent immobilier, le viager, c'est plus compliqué quand même.
Absolument.
Surtout
absolument.
Si vous voulez satisfaire les...
Exactement.
En fonction de tout ce que vous venez m'expliquer, que je découvre d'ailleurs, il faut quand même avoir affaire à des gens qui savent.
Exactement. Et c'est vrai qu'il faut quand même avoir recours à des spécialistes, parce que petit à petit, si vous voulez, le viager devient... Alors, le viager existe depuis longtemps. Hein, vous savez, pour l'anecdote, Général de Gaulle avait acheté en 1934.
Ah oui, la boisserie, il l'avait acheté en viager.
Exactement. Colombet, les deux églises, exactement. Il l'avait acheté, c'est devenu une demeure familiale. Donc, ça existe depuis longtemps. Il est évident qu'il n'y a pas eu... il y a eu des clichés, il y a eu des idées reçues. Ça n'a pas eu souvent le viager, parce que souvent on pense, si vous voulez, au décès, à la mort. Alors que moi, qui est dans la spécialité, que je pratique ces ventes-là, et je suis auprès des vendeurs, des acheteurs, c'est en aucun cas ça. En fait, moi, je pars vraiment d'un principe d'un contrat gagnant-gagnant.
On ne spécule plus sur la mort.
Très sincèrement, les intérêts des deux parties ne sont pas forcément antagonistes. Donc, parce que c'est vrai que vous avez d'un côté les personnes qui ont un bien, qui arrivent à le monétiser, si vous voulez, surtout je vous l'ai dit, donc c'est vrai que il y a eu la pandémie, la Covid.
Ah oui, la Covid.
Il y a eu, ça a un petit peu accéléré parce qu'il y a eu ils souhaitaient avoir le maintien à domicile. Merci. Et aussi, comme je vous ai dit, il y a le vieillissement, donc l'espérance de vie qui augmente, la vie qui devient chère, les retraites qui diminuent. Tout ça favorise le viager, qui est vraiment une très bonne solution, et une solution adaptée. Hein, donc.
D'accord. Alors voilà, un message qui concerne quand même
le viager. Très bien.
Alors, attendez, je le découvre avec vous. Mm-hmm. Y a-t-il un risque d'être préempté pour un viager comme pour une vente ordinaire ?
En général, il n'y a pas de droit de préemption sur les viagers. En général.
Ah bon, non.
Après, vous savez, on n'a pas eu le cas, mais si c'est vraiment demain un immeuble, quelqu'un à la tête d'un immeuble qui veut vendre l'immeuble en question en viager, que voilà, donc.
Enfin, c'est pas une question récurrente.
Voilà, non, là, d'accord. C'est vraiment. Oui, bon, exactement.
Cher Audit, est-ce que c'est une dame ou un monsieur ? C'est un monsieur.
Un monsieur. Voilà.
Ah non, pardon, ils ont coché, non, c'est une dame.
C'est une dame.
Alors, on ne sait pas, c'est peut-être entre les deux, j'en sais rien.
À ma connaissance, il n'y a pas eu de.
Sur 15 ans, vous n'avez pas connu.
Ah oui, non, bon, plus de 200 viagers à l'actif, mais on n'a pas eu de.
Merci beaucoup. Alors, un autre message. Très bien, c'est une très bonne question parce que je voulais vous la poser. Définissez, s'il vous plaît, une vente en nue propriété.
Très bien. C'est, ben voilà. C'est une très bonne question.
Merci de nous l'avoir posée. Ben
exactement. la nue propriété, c'est... je vais parler de un petit peu la différence. Donc, parce qu'on parle de viager. Quand on parle de viager, on a donc c'est une sorte de démembrement. Alors, qu'est-ce que c'est que le démembrement ? Voilà. C'est tout simplement la séparation, si vous voulez, de la pleine propriété en usufruit et nue propriété par un acte juridique. Donc là, si vous voulez, quand il y a un viager, le droit d'usage et d'habitation est exclusivement réservé à la personne ou les personnes qui vendent. Ça veut dire, donc, autrement dit, soit vous occupez votre bien, soit vous ne pouvez pas l'occuper, vous partez et vous rendez les clés à votre acheteur. En contrepartie, il y a des avantages en plus dans le viager, c'est qu'il s'avère que donc, vous aurez, au même titre qu'un locataire à votre charge, que les charges locatives.
Oui, je voulais y venir, ça.
Exactement. Donc du coup, les gros travaux, ce n'est pas à votre charge, ni la taxe foncière. Alors que dans une vente en nue propriété, vous gardez l'usufruit, donc c'est-à-dire vous vendez la nue propriété, mais en gardant l'usufruit, cela vous permet de non seulement héberger un proche, de louer votre bien et percevoir les loyers. Mais bon, en contrepartie, vous gardez quand même les gros travaux, les charges. Donc,
en définitive, alors, je comprends bien, la nue propriété, c'est comme si vous étiez vraiment le propriétaire, quoi.
Si vous voulez, ça vous permet quand même de... Et c'est une pratique qui est de plus en plus courante parce que peut-être qu'il y a quelques années, on n'en parlait pas assez ou les gens n'étaient pas aussi
avertis. Non, ça ne disait rien à personne.
Voilà. Mais c'est vrai que nous, c'est vrai qu'on le propose depuis le début parce que ça peut intéresser des gens. Et nous, ça veut dire à chaque fois que des gens ils viennent nous voir et on estime leur bien, on dit voilà, en viager, vous avez ça, les avantages de viager et la nue propriété, c'est ça. C'est quasiment au niveau, au niveau prix, c'est quasiment pareil, mais c'est quand même deux choses différentes. Et il faut dire que dans la nue propriété, la plupart du temps, alors après, tout, encore une fois, peut être adapté et selon les souhaits des vendeurs, mais en général, ils touchent une somme, un bouquet seul, sans rente, c'est-à-dire voilà, ils touchent une somme seule et ils restent chez eux sans rien d'avoir, mais ils restent chez eux, donc toute leur vie durant et ils changent rien à leurs habitudes, ou même C'est un petit peu la différence, mais c'est assez, similaire si ce n'est que ces détails de charge.
Très bien. Alors justement. Vous l'avez effleuré un instant, là. Bon, alors, maintenant, ça y est, moi, j'ai signé un viager, je suis chez moi, c'est tranquille, bon, j'ai tout compris. Mais, en définitive, je paye, par exemple, les charges du ménage de l'immeuble, les poubelles, la concierge, des choses comme ça. Mais s'il faut refaire la toiture, je ne suis pas concerné.
Voilà, non. Justement, en vendant en viager, donc en gardant le droit d'usage d'habitation, vous n'aurez que les charges locatives. Et en fait, si vous voulez, autrement dit, pour simplifier, c'est vous aurez le même privilège qu'un locataire.
C'est locataire, voilà.
Ça veut dire, chez vous, vous pouvez... peindre en rouge, faire ce que
bien
vous voulez.
Sûr.
Bon, si vous voulez abattre un mur porteur ou même une sorte de cloison, il est conseillé de quand même avertir votre...
parce que si on le modifie son futur bien,
exactement. Et encore, contrairement aux idées reçues, nous, on a quand même énormément de gens, des acheteurs et des vendeurs, des débits rentiers et crédits rentiers qui s'entendent très bien, il y en a même qui se voient. La dernière fois, comme je garde très bon contact avec mes vendeurs et mes clients, donc il disait que la dernière fois, donc la personne qui lui avait acheté avait un enfant, et il s'est rendu... chez le monsieur, donc en présentant l'enfant, il y en a deux qui se voient une fois par an pour les fins d'année. Enfin, il y a deux.
Oui,
c'est pas du tout en fait les idées reçues.
Justement, c'est bien.
Bah,
je suis content parce qu'on est en train de démystifier un peu un truc. Moi, quand j'étais plus jeune. Le viager, c'était des gens qui attendaient que vous creviez.
Oui, voilà. Donc, malheureusement, il y en a encore un petit peu qui ont cédé, alors que pas du tout ça. Si vous voulez, les gens, ils vendent. Même ceux qui achètent, c'est souvent des expatriés qui ne sont même pas là. Il y a maintenant des fonds d'investissement. Il y a de tout.
Sûr.
Et c'est vrai qu'eux, ils essayent aussi de se procurer une sorte de préparer leur avenir avec les coûts de l'immobilier qui augmentent sans cesse. Oui, donc ça leur permet aussi d'avoir donc d'investir et donc dans un investissement immobilier et sécuriser leur avenir en fait.
Bon, mais on peut pas soupçonner de malhonnêteté un couple qui prend en viager un appartement occupé par une dame de 94 ans quand même. Bon, ils ont une, entre guillemets, une chance de disposer du bien relativement vite, mais enfin, c'est pas forcément au départ une intention malveillante.
Non. Et je vais même vous dire, à ces âges-là, en fait, si vous voulez, à partir de 94 ans, l'abattement est très minime. Parce que tout dépend, parce que la question que vous m'avez posée, c'est... Voilà, donc si vous voulez, ça dépend, donc l'espérance de vie à 94 ans, bon, l'espérance de vie
c'est
assez élevée.
C'est un exemple
donc,
un peu excessif.
Ça, oui, voilà. Mais franchement, non. Alors après, je ne dis pas qu'il peut y avoir des gens tordus partout.
Donc, ça peut traverser l'esprit aussi.
Moi qui côtoie donc, depuis de nombreuses années, je vois quand même que ce n'est pas du tout ça. C'est avant tout un investissement.
Voilà, il faut laisser tomber cette idée.
D'ailleurs, c'est un investissement intergénérationnel.
Mais c'est une façon d'échapper aussi à l'impôt de l'État.
Oui, il y a ça et il y a aussi...
Peut-être qu'un jour, l'État va mettre son nez là-dedans d'une façon plus...
Vous savez, justement, un des principaux problèmes de l'économie, c'est l'économie de la vieillesse, le silver economy.
Oui, c'est ça.
Justement,
oui.
Donc, parce que ça a un coût. Et d'ailleurs, il y a eu les différents gouvernements pour repousser l'âge de retraite, tout ça. Il faut dire que ça a un coût et... Et c'est vrai que le viager, c'est quand même un avantage parce que c'est vrai que, si vous voulez, il y a environ 60% des seniors de plus de 65 ans sont propriétaires. Donc, ça montre que quand même, ça peut être même un allègement pour l'économie de justement...
Justement, il faudrait mieux le favoriser que de...
Exactement. Non, mais je pense que c'est un petit peu en train de se faire. Il y a des fonds donc, privés, il y a des fonds donc, à la Caisse des dépôts aussi qui investissent. Donc, je pense qu'on est, depuis quelques années, il y a pas mal de changements. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a... de plus en plus d'articles, de revues, d'émissions même à la télé qui parlent de viager, de la nue propriété, des membres.
Justement, je voulais dire que je vous ai connu à travers le dernier numéro de Capital, qui est quand même une revue sérieuse.
Exactement.
Où ils vous ont mis une photo qui est bien, mais je vous trouve mieux au naturel que sur la photo.
C'est gentil, il y en a qui disent le contraire.
J'apprécie. Non, enfin, on vous reconnaît, cela dit. Mais bon, il y a vraiment un grand papier sur vous, c'est ce qui m'a donné l'idée de vous faire venir, dans lequel vous expliquez tout, c'est ce qui m'a servi à vous poser des questions. Mm-hmm. Mais c'est là aussi, en lisant dans un journal aussi sérieux que Capital, tout ce qu'ils disent sur le viager et les questions qu'on vous pose à l'intérieur prouvent que c'est quelque chose maintenant qui est sérieux. C'est pas une rigolade, quoi. Et c'est vraiment peut-être l'avenir aussi pour les... Enfin, peut-être que dans le futur, quand les caisses de retraite s'amélioreront ou pas, c'est pas sûr. On verra ça différemment. Mais alors qu'il est, pour les gens qui, au long de leur vie, ont réussi à acheter un bien, c'est quand même quelque chose de... C'est vraiment la poire pour la soif, quoi.
Mais vous avez raison. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, donc, ce n'est plus tabou d'hériter de soi-même.
En plus, c'est vrai, quand j'en ai parlé un peu autour de moi à propos de l'émission, j'avais pas les mêmes impressions de rejet, parce que c'est toujours pareil. Je crois qu'aujourd'hui, pour étaler un peu le sujet, la mort, c'est tabou, on n'en parle plus. Ce qui est peut-être pas malin non plus. Mais en même temps, du coup, le viager, ça s'inscrit dans ça aussi. Ça fait partie des choses de la vie, quoi.
Oui, on maîtrise pas. Vous savez, moi, à chaque fois, je le dis, moi, je suis souvent, donc par mon métier, souvent en scooter ou vélo. Et c'est vrai que je peux partir à tout moment. Donc ça, on ne maîtrise pas. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas.
Bien sûr.
Et c'est, si vous voulez, le contrat viager, il y a aussi justement l'aléa. Et il y a de tout. Donc,
avez vu des clients, acheteurs, pleurer à l'enterrement de...
Sincèrement, alors j'ai eu quelques cas où on a évoqué, parce qu'après les décès, qui ont été, qui appréciaient, que franchement, en tout cas, ce qu'ils m'ont dit, alors est-ce que c'est la sincérité ?
C'est
un peu triste quand même, franchement. J'ai eu les cas, mais c'est vrai que quand même, au-delà de l'aspect
intérêt,
on s'y attache, parce qu'il y a quand même, il ne faut pas oublier, donc c'est un contrat à long terme. D'ailleurs, nous, on fait le suivi. C'est, si vous voulez, une vente classique, vous vendez, vous partez. Enfin, l'agent immobilier. Mais nous, en tout cas, nous, notre valeur ajoutée aussi, c'est qu'on fait le suivi tout le long du contrat qui est à vie. Donc, parce que, si vous voulez, il y a les indexations des rentes. Les rentes sont majorées chaque année. Il y a aussi tout ce qu'il faut faire au niveau des ventilations des charges, la taxe foncière, tout ça. Donc, il y a des...
Mais c'est une espèce de trait d'union entre les deux.
Voilà. Nous, on fait le trait d'union. Alors, il y a des cas où les deux parties s'entendent tellement bien que c'est fluide. C'est eux, ils le font. Ils ne font même pas appel à nous. Mais la plupart du temps, on est là quand même.
Oui, non, pour que ça soit régulier.
Et ça se passe plutôt vraiment très bien, hein, en général.
Alors là, j'ai une idée comme ça, vous voyez, je n'ai pas trop préparé pour que ça reste frais.
Oui.
Mais j'ai une idée qui me traverse la tête. Est-ce que, j'aurais pu me renseigner, mais je ne l'ai pas fait, est-ce que dans l'histoire du viager, on a deux, trois histoires assez croustillantes de meurtres Parce que jamais dans la presse, on... Dieu sait qu'en ce moment, on a la gâchette facile, si j'ose dire. Mais on dit pas, tiens, on a retrouvé monsieur Intel étranglé dans son lit, et il s'avère que c'est les gens qui l'avaient pris en viager qui s'en sont occupés.
Écoute, vraiment, j'ai pas l'exemple, j'ai pas suivi vraiment ça.
Truc marquant là-dedans.
Non. Sincèrement, non. Moi, je n'ai pas connaissance, en tous les cas.
Mais d'accord. Voilà. Mais oui, cela dit, devenir assassin pour récupérer le viager, c'est pas très malin.
Non,
mais enfin, comme souvent, c'est des personnes seules. À la limite, au cours d'une visite, on peut l'étouffer entre deux oreillers.
Ça, c'est vraiment... Oui, voilà, c'est le film et c'est les... Voilà, c'est encore une fois les clichés, les idées reçues, mais dans la pratique, c'est pas du tout
voilà,
ça.
Et puis
les cas, je peux vous le confirmer.
Vous avez tout démystifié là en disant que c'est fini, l'espoir absolu de la mort du vendeur.
Voilà.
Donc, non, mais c'est vrai que d'un seul coup, je m'étais posé la question un peu pour sourire. Mais il n'y a pas d'histoire dramatique.
Bah, moi, par ma connaissance, non. En même temps, je ne suis pas fan des faits divers, mais
d'accord, mais il y a une pièce de théâtre à écrire.
Exactement.
Qu'est-ce que je voulais vous demander encore? Oui, donc, quand vous êtes chez vous et que vous êtes en viager, vous touchez votre rente viagère très bien. Et vous avez tout à l'heure, on peut toujours un peu modifier l'appartement, faire ce qu'on veut, mais si on fait vraiment des gros travaux parce que vous avez envie de changer, il faut quand même en parler à celui qui a acheté.
Exactement. Ça, c'est bien de le mettre au courant. Et d'ailleurs, vous savez, souvent, les gens, ils vendent pour améliorer leur quotidien. Et c'est souvent, c'est arrivé qu'ils me disent, une fois qu'on a vendu, je veux mettre du parquet, je veux changer ça. Donc, c'est vrai qu'ils préfèrent l'investir. Et c'est quand même, en dehors de le côté financier, c'est aussi un bien-être chez soi.
D'accord, oui.
Et surtout qu'il ne faut pas oublier, une fois que vous vendez, que ça soit en nue propriété ou viager occupé, c'est... Et il faut dire que c'est... vous ne changez rien à vos habitudes et que vous restez chez vous. Après la signature, le lendemain, vous allez chez votre boulangerie ou vous allez au même marché de journaux. Enfin, je veux dire, vous changez strictement rien à vos habitudes. Et ça, c'est important.
Alors, vous êtes dans votre appartement. Dans le fond, vous vivez un peu comme un locataire, quoi. C'est ça
En fait, si vous voulez, sur le papier, vous n'êtes plus propriétaire, mais rien ne change...
dans la vie de tous les jours. Mais alors, aux assemblées générales de copropriété, qui est-ce qui y va?
Normalement, c'est les acquéreurs qui sont censés y aller. Mais comme ils y vont pas souvent, ils donnent procuration et donnent délégation. Donc, si jamais les vendeurs ils veulent y aller, il y a eu des cas, ils voulaient même pas y aller. Les gens, ils ont dit justement, je vends pour éviter les tracas, d'aller voir les voisins un peu attordus ou qui font sont pas sympathiques du tout.
Je me mettais dans le cas où ça m'arriverait, je me dis je serais délivré de l'Assemblée Générale de copropriété.
Exactement.
Qui généralement...
c'est pas un parti de joie en général.
Une comédie idiote.
Oui, exactement.
Il y a d'ailleurs eu, il y a des années, ça s'appelait les colocataires, ça avait été créé au Théâtre Fontaine. Une pièce de théâtre où le type s'était contenté de prendre des procès-verbaux d'Assemblée Générale et il avait écrit une pièce à tort de rire.
Ah ouais,
il avait un peu arrangé, mais c'était... comme les brèves de comptoir. Il avait pris des PV de l'Assemblée générale de copropriété, où il y a des tombereaux de conneries qui sont dites, et il en avait fait qui est très drôle. Donc, oui, alors, oui, donc si quelqu'un a pris en viager, c'est quand même lui qui devrait siéger.
Voilà, parce qu'il devient, en fait, si vous voulez, propriétaire.
Non, bien sûr.
Au même titre que, alors ça aussi, il faut peut-être le mentionner. Donc, quand vous achetez un viager ou vous vendez un viager, donc votre propriétaire, que ça aime bien, à tout moment, il peut le vendre. D'ailleurs, ça peut arriver où, si vous voulez, donc c'est rare aussi, c'est arrivé une fois, mais que l'acheteur décède. Donc, soit c'est les héritiers qui continuent à...
Très bien,
les rentes, quand il y a des rentes, ils reprennent le bien. S'ils ne veulent pas, parce qu'ils sont petits ou qu'il n'y a pas d'intérêt, ils peuvent très bien vendre le viager. Donc, c'est une revente, d'ailleurs. Au jour d'aujourd'hui, quasiment un quart de nos ventes, c'est des reventes de viager. C'est-à-dire, vous achetez à un moment donné un bien, mais dans 5, 10 ans, quelle que soit la raison, vous voulez vendre. Et donc, vous vendez. Et vous pouvez le vendre, mais par contre, la personne qui achète, on ne change même pas une virgule du contrat initial.
Voilà, c'est ce que vous m'avez dit, vous l'avez expliqué déjà tout à l'heure.
Exactement.
Ouais. Voilà. Ok, parfait. Bon, mais alors le propriétaire, un peu officiel, le type qui a pris l'appartement viager et qui n'a pas envie d'aller à l'Assemblée générale des copros, il peut donner
pouvoir.
D'accord, à son client. À son, oui.
Voilà, donc.
Ah bon, d'accord, ça ne change rien.
Oui, non, mais après, moi j'ai eu des cas, ils ont dit nous absolument on ne veut pas. Donc après, ils donnent pouvoir à d'autres propriétaires de l'immeuble. Mais souvent, vous savez, les gens, les vendeurs, ils sont impliqués, ils aiment bien, et donc y assister. En général, la plupart du temps, je dirais à 70-80% des cas, ils préfèrent continuer à y aller, à assister, voir, parce que quand même, ils ont été propriétaires et ils veulent quand même suivre l'évolution.
Voilà, à la limite, ils peuvent même défendre les intérêts de leurs successeurs.
Exactement.
Oui, non, mais moi, je pense à ça parce que je trouve que les assemblées générales de copropriété, c'est quand même le cirque.
je suis d'accord avec vous.
Bon, qu'est-ce que je voulais encore vous demander? Qu'est-ce que vous avez pas de... allez-y, avez-vous des questions à poser ou... je vois que vous avez préparé deux, trois choses, allez-y. J'ai peut-être oublié des choses.
Si vous voulez... c'est surtout aussi là, justement, parce que là, je reviens, parce que la question était pertinente, la nue propriété, c'est vrai que...
Ah oui, très bien.
On parle du viager, mais il faut savoir quand même que... il n'y a pas que le viager, il y a la nue propriété qui est de plus en plus répandue d'ailleurs, et qu'il y a moins peut-être l'aléa sur les décès ou autres, parce que vous touchez tout d'un coup et que vous restez chez vous. Alors après, tout dépend de la vie. Et d'ailleurs, il y a eu des statistiques qui montraient que les gens qui vendent en viager ou en nue propriété, ils ont une espérance de vie normalement un peu supérieure à normal, parce que justement ils ont réglé certaines choses de leur vivant et que il y a le côté financier qui les aide à avoir une qualité de vie meilleure et tout ça, donc c'est quand même c'est important.
D'accord. Il y a une question qui m'effleure. Une fois que la décision est prise, j'ai décidé, après avoir tout regardé, que j'allais vendre ma maison en viager. Je vais vous trouver parce qu'on m'a dit, j'en ai parlé à des amis. Et après, une fois que c'est enclenché, ça demande combien de temps pour arriver au final?
Alors, ce qu'il faut savoir, alors il y a une chose aussi, donc c'est une excellente question, très pertinente d'ailleurs, parce que il y a une chose qu'on n'a pas parlé, c'est la protection des vendeurs. Vous savez, quand vous vendez un contrat viager, c'est très, très, côté vendeur et justement côté des seniors qui vendent. Alors, en fait, il y a une hypothèque du premier rang qui est prise sur le bien. Ça veut dire le bien est mis en premier hypothèque pour les intérêts du vendeur. Ça veut dire comme ça, si jamais... Il y a, quelle que soit la raison, une rente qui n'est pas payée ou l'acheteur, le débit rentier ne peut plus payer la rente. Donc, du coup, le vendeur, il peut récupérer son bien et d'ailleurs sans devoir payer quoi que ce soit, rendre quoi que ce soit. C'est-à-dire que les arriérés de payer tout ça, donc la vente est annulée.
Ça repart à zéro.
Exactement. Ça, si vous voulez, c'est un avantage pour le vendeur, mais D'un autre côté, côté acheteur, donc en général, ils ne peuvent pas financer le viager parce que justement, comme les banques, ils ne peuvent plus se mettre en... Ils se rendent donc en deuxième rang, donc ils ne peuvent plus s'y mettre. Donc aussi, il faut dire que c'est un investissement donc, pour les acheteurs qui, entre guillemets, contournent les banques et, si vous voulez, l'investissement, enfin les prêts donc, classiques donc, et à ce sujet. Donc les acheteurs de viager, ils ont en général donc les sommes donc, qui représentent le bouquet, donc c'est la somme quand vous payez le jour de la signature et des rentes. Donc à ce niveau, donc en général, les délais c'est comme une vente classique, mais comme il n'y a pas justement les crédits et les banques, donc ça peut aller un petit peu plus vite. Donc,
ah bon, voilà. Un peu plus vite.
Ah, exactement. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de ventes directes. Qu'est-ce que c'est qu'une vente directe? C'est une vente qui se fait sans passer par la promesse de vente. Donc, et à ce jeu, donc, ça peut être aux alentours de 1 mois et demi, 2 mois. Alors que les classiques, c'est...
D'accord.
Il faut compter un mois et demi pour avoir la promesse et entre 1 à 3 mois pour la vente définitive de l'acte authentique.
D'accord. Et maintenant, alors sur un plan pratique, bon, je décide de vendre mon appartement. Alors après, comment ça se passe? Il y a des visites, il y a une expertise pour mesurer exactement combien.
Exactement. Voilà, au même titre, tout ça, voilà, c'est comme c'est vraiment un acte notarié. Donc, on fait les diagnostics. Il faut, comme vous avez dit, le titre de propriété, les PV d'AG. Pour donc les charges, enfin tout ça, il faut que l'acquéreur soit au courant de tout ça. Et une fois qu'on a tout ça, il y a des visites. Alors, ça peut arriver qu'on a des clients réguliers parce que souvent, les acheteurs de viager, ils rachètent plus.
Ah oui, ça peut être aussi...
Ça arrive quelques fois par an qu'il n'y a même pas de visite. Ça veut dire qu'on donne quelques photos, on donne l'adresse.
Ah oui, vous faites confiance à ce moment-là.
Voilà, fait confiance. Oui, on marche souvent. Il y a souvent quelques affaires qui se font sans visite.
Mais là, c'est parce qu'on fait des affaires. Là. C'est,
voilà, parce qu'ils ont déjà acheté, ils connaissent, ça peut arriver. Voilà.
Mais sinon, bon... Alors,
sinon, c'est comme une visite, comme une vente classique. Donc, on prend rendez-vous, on fait visiter... Et à partir de là, donc ça, il y a une offre d'achat qui est faite, acceptée par les deux parties. Et après, on fait la mise en relation des notaires. Donc,
D'accord. Mais dans ces cas-là, quand il y a des gens qui viennent visiter, il vaut mieux que ce soit vous qui parliez que le...
Non, ça dépend. Non, il y en a. Alors, j'ai quand même des acheteurs qui veulent quand même faire le dialogue, savoir souvent les personnes, quelle était leur profession, avoir un peu plus de proximité, de poser des questions, que ce soit sur l'environnement, l'immeuble ou autre. Donc, ça peut être des sujets différents, mais il y en a d'autres, ils sont un peu plus réservés, mais tout dépend. Mais on a quand même pas mal de clients qui ont l'habitude,
Il peut y avoir aussi une discussion après sur le montant de la rente ou un peu...
Au départ, ça ne se fait pas sur la visite. Alors après, s'ils doivent négocier, ça se négocie comme...
Il n'y a pas d'ascenseur, donc...
Après, une fois qu'on a fini la visite, donc on fait un point et s'il y a des choses à proposer ou des négociations, ils nous font et après, nous, on fait l'intermédiation. Mais en général, sur les premières visites, c'est vraiment pour visiter le bien et voir l'environnement et si ça correspond bien à leurs critères de recherche.
Oui, de toute façon, là, c'est comme l'achat d'un appartement dans les conditions
Exactement, classique. Exactement.
Oui, parce que l'appartement peut plaire, mais pas le quartier. Enfin, bon,
absolument, oui. Donc.
Je ne veux pas insister sur certains endroits à Paris qui sont un peu exotiques. Voilà. Oui, alors après, effectivement, il peut y avoir les discussions, mais ce n'est pas des discussions de marchands de tapis, quand même, apparemment.
Non, voilà. Parce que quand même, c'est vrai que nous, on a même des notaires qui nous sollicitent de temps en temps pour les calculs, parce que c'est quand même assez technique et que il y en a qui n'ont pas l'habitude. Concrètement, il y a des notaires qui ne font pas beaucoup de viager ou n'ont pas eu l'occasion de le faire. Donc, ils nous sollicitent. Et on est quand même, on a des prix, des estimations quand même très justes. Après, il peut y avoir toujours des négociations, mais il faut dire que d'une manière générale, ça se passe plutôt oui.
Question probablement stupide, mais qui me traverse l'esprit. Mmh. Moi, ça va faire 50 ans que j'habite dans mon appartement à peu près. Mmh. Bon, j'ai vécu toujours tout seul, donc ça va, je sais où sont les trucs. Mais d'un seul coup, ils vous font l'acte de propriété et vous ne le retrouvez plus. Ah. Ça peut arriver. Qu'est-ce qui se passe?
Ça peut arriver. Bah, ça, c'est pas bien grave.
Ah bon?
Oui, parce que maintenant.
Je pensais que c'était la pierre d'achoppement.
Non, c'est vrai qu'il veut mieux l'avoir, mais maintenant, oui, les notaires, ils ont le. Voilà, ils peuvent demander, là, parce qu'il y a des. Les actes sont enregistrés et que de plus en plus scannés, enfin voilà.
Oui, l'informatique.
Mais, voilà, l'informatique, ça a quand même bien aidé. Et donc, ils peuvent quand même faire la demande. Alors, après, ça a un coût, ça peut être.
Des délais. Voilà, ça peut être. Compliqué,
voilà, mais... Plus ou moins compliqué. Peut-être prendre un peu plus de délais, parce que si vous avez l'acte, au moins, ils ont tout et tout.
D'accord.
Voilà, il y a tout y est. Voilà, ça va juste changer sur les délais, mais sinon, non.
Et je posais la question, parce que moi, j'ai regardé un peu chez moi, là, j'ai fait du rangement récemment. J'ai l'acte de propriété, mais on dirait un manuscrit de la mer morte.
Hein, ah, c'est... bah, c'est vrai que ça a bien changé. Maintenant, c'est on dirait des livres.
Oui,
des,
c'est ça.
Actes, alors qu'il
et puis, il est dans un état, on dit attention, si je le feuillette, il va exploser.
Ah oui, absolument. C'était
bon, des... Mais non, donc, c'est... si on a cet inconvénient, ça retarde un peu les choses.
Un petit peu les choses, mais sinon, il n'y a pas vraiment d'incident. Et sinon, alors juste une chose que peut-être on n'a pas dit. Alors nous, quand même, en conseil, certes, souvent les gens, ils font ça pour le côté financier, mais on conseille quand même de le faire s'ils sont bien chez eux. Ça veut dire si vous avez un voisin qui vous embête et que vous n'êtes pas bien dans votre domicile, donc il ne faut pas faire un viager. Voilà. Parce que le viager, c'est le but, c'est de rester chez soi, de rien changer à sa vie.
Mais vous savez, passé un certain âge, même si on a des voisins un peu emmerdants, on n'a pas forcément envie de s'en aller.
Oui, je sais. Parce que c'est vrai que Dieu sait que même à des âges plus jeunes, les déménagements, tout ça, c'est quand même compliqué.
Il y a des gens qui adorent ça. J'ai des copains. J'avais un ami qui... Bon, on me dit toujours, tu fais parler les morts, qui s'appelait Thierry Le Luron, qui est mort à 36 ans, qui a déménagé 11 fois dans sa vie.
Ah oui.
Et qui a eu 35... contrôles fiscaux, puisque comme c'est difficile, on peut pas flinguer les chansonniers, en les enquiquinant, c'est un peu... Je dis 35, c'est peut-être 33. Mais
donc c'est pour la raison pour laquelle il déménageait peut-être.
Non, il déménageait par goût.
Goût, ah d'accord.
Et alors il a déménagé 11 fois dans sa vie, il est mort à 36 ans, et il a eu une trentaine de contrôles fiscaux dans sa vie. Bon, donc
c'est
tombé. Voilà. Et alors en même temps, si, mais... parfois, ça serait bête de déménager parce que vos voisins vous cassent les pieds, parce que c'est peut-être eux qui vont déménager, qu'il y en aura d'autres moins enquiquinants qui vont arriver derrière.
Oui, aussi. Mais en fait, si vous voulez, c'est quand même bien de le faire.
Voilà. Bon, si vous, malgré quelques inconvénients, si on se sent bien chez soi, il vaut mieux y rester. Exactement. Mais maintenant, si ça vous devient insupportable, c'est idiot de faire un viager, puisque le but de la manœuvre, c'est aller jusqu'au bout.
Exactement.
Bon,
Et sinon, alors juste pour peut-être terminer.
Il nous reste 8 minutes.
Ah, 8 minutes, d'accord, j'avais pas suivi. Bon, j'ai pas encore...
Pardon.
j'ai pas encore l'habitude de dire. Écoutez.
Ça viendra,
il faudra
revenir.
Et en fait, je disais plus tôt, c'est vrai qu'on a pas mal parlé des viagers occupés, la nue propriété ou même de la vente à terme, mais il y a un sujet, c'est la viager libre aussi, qui est quand même intéressant et peut-être un peu méconnu des gens. En fait, si vous voulez, il y a énormément d'avantages à vendre un bien. Et c'est vrai qu'il s'avère qu'on a tous investi dans l'immobilier pour notre retraite et qu'on loue, par exemple, en dehors de notre habitation principale, résidence principale, on a un appartement, un studio qu'on loue et qui est loué par un locataire. Il faut savoir qu'il y a une possibilité de transformer ça en viager libre. Ça veut dire que vous vendez, que ce soit avec le locataire à l'intérieur ou pas, vous vendez. Et ça, c'est quand même assez intéressant pour les vendeurs, parce que pour plusieurs raisons. Alors, une des raisons, c'est qu'une fois que vous vendez ça en viager libre, vous n'aurez plus rien, pas du tout de frais. C'est-à-dire ni les frais de l'immeuble, ni la taxe foncière, ni les gros travaux, rien du tout. Et qu'en contrepartie, vous allez toucher des rentes qui sont quand même... y a un abattement en fonction de l'âge, mais en général 70% d'abattement lorsque vous avez plus de 70 ans. Donc, vous ne déclarez que 30% des rentes. Donc, au niveau avantage fiscal, très intéressant. Et à partir de là, et donc, vous avez quand même en plus... pas du tout de les tracas de s'occuper d'un locataire ou le locataire.
Ah oui, bien sûr.
Ça. Donc, vous touchez vos rentes, vous n'êtes plus entre guillemets, en plus ça sort de votre patrimoine immobilier, donc si vous êtes éligible à l'IFI ou autre taxe, donc ça sort de l'IFI. Voilà. Et vous n'êtes pas éligible des taxes, des revenus fonciers qui sont quand même importants, et ça reste quand même une solution très intéressante,
bon,
un peu méconnue.
Il va nous rester 3 minutes. Juste une dernière question. Fiscalement, comment on déclare sa rente viagère?
Donc la rente viagère, justement, en fonction de l'âge, c'est-à-dire au-delà de. À partir de 70 ans, vous avez. C'est très intéressant. Donc 70% d'abattement.
Oui, non, mais on la déclare comment maintenant que
Sur une. Il y a une ligne dans les.
Dans la
déclaration. Il y a marqué rente. Parfait. Donc vous remplissez ça. Il y a directement les.
Ah oui, donc il faut bien lire le truc.
Absolument. Voilà, il ne faut pas oublier
parce
ça.
Parce qu'avec l'histoire de la retenue à la source, tout ça, moi, j'y comprends plus rien. Alors.
Là, les rentes, vous déclarez. En fait, vous avez un abattement de 70%. D'accord. Vous déclarez 30% qui s'ajoute à d'autres revenus
d'accord,
que vous avez.
Okay. Mais il faut le déclarer quand on reçoit la feuille.
Absolument.
D'accord.
L'année d'après que vous vendez.
D'accord. Il nous reste 2 minutes. Alors, on ne va pas faire de la publicité, mais je vais quand même dire que s'il y a des auditeurs qui sont intéressés, je vais donner votre numéro de téléphone. Alors, le 01 88 33 96 69, Monsieur Reza Nakai, qui a eu la gentillesse de prendre un moment de son temps, parce que je sais qu'il a beaucoup de travail, pour venir nous expliquer ce qu'était le viager, parce que comme j'y comprenais rien, j'ai dit, après tout, je vais faire partager mes connaissances des choses aux auditeurs. Chers auditeurs, merci beaucoup. J'espère que vous allez m'envoyer des mots comme vous le faites à chaque fois, c'est toujours très sympathique. Eh bien, je vous dis au mois prochain, il reste 2 minutes, on va vous mettre un tout petit peu de musique et puis voilà.
Merci pour votre invitation en tout cas et au revoir à tout le monde.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Venez d'entendre Chronique de la vie parisienne dirigée par Jean-Paul Chériguès de Olmeta, diffusée en direct sur Radio Courtoisie mercredi 10 novembre 2021 de 10h30 à 11h30 et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.